Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission en partenariat avec la plateforme des cultures du goût Alimentation Générale que dirige Pierre Hiverna. Pierre Hiverna, bonjour.
Bonjour Caroline.
En fin d'émission, à 12h25, vous proposerez la chronique La cerise sur le gâteau. Aujourd'hui,
J'avais envie de poser une question. Manger coûte-t-il trop cher ?
Bonjour Natacha Triou.
Bonjour Caroline.
Quant à vous, vous nous proposez la Madeleine 2, c'est-à-dire le souvenir gustatif d'une personnalité. Aujourd'hui,
on parlera de Joan Soir.
À tout à l'heure pour la Madeleine, aux alentours de 12h15. Et notre plat du jour aujourd'hui sera sans viande. Une enquête du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie fait état d'une baisse de 12% de la consommation de viande en France en 10 ans. On serait passé entre 2007 et 2016 de 153 à 135 grammes par jour et par personne. Le mouvement n'est pas nouveau, mais il vient confirmer une tendance de fond qui devient un phénomène de société, le véganisme. Pas une semaine sans tribune, essai, initiative ou festival pour esquisser les traits d'un monde qui bannirait toute exploitation animale, et ce malgré les efforts de la filière pour vendre la qualité de ses produits et montrer son engagement pour l'environnement. Et les tensions se font parfois vives entre défenseurs de la cause animale et bouchers. Pouvons-nous, voulons-nous nous passer de viande, vraiment ? Comment sortir de la guerre culturelle autour de la viande ? Le végétarisme est-il l'avenir de l'homme ? Une troisième voie entre le tout animal et le tout végétal est-elle envisageable ? Vices et vertus du végétarisme, c'est le sujet des bonnes choses aujourd'hui.
Jamais tu manges de viande ?
Non, jamais.
Ah bon ?
Et le poisson ? Bah, le poisson, pas trop non plus, tu vois, j'en mange des fois quand... quand il n'y a rien d'autre, alors... parce qu'il faut bien un petit quelque chose de protéines quand je suis chez les gens, des fois. Mais moi, pas trop, quoi.
Ah. Et au niveau de l'organisme, pas de problème ? Tout va bien ?
Ouais. Non, je me porte bien. Mais chez moi, je mange des céréales, je mange des... je me fais des trucs bien.
Des laitages, non ?
Ouais, les laitages, ouais.
Du lait.
Ouais, du lait, des amandes, des trucs comme ça. Il n'y a pas besoin de viande, franchement.
Il n'y a pas besoin de viande. C'est ça qu'on va voir avec vous, notamment Daniel Thomé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, spécialiste des protéines. On va vous demander si au niveau de l'organisme, comme dans cet extrait du rayon vert d'Éric Rohmer, ça se passe bien quand on mange de la viande, ça se passe aussi bien quand on n'en mange pas. Vous êtes professeur à AgroParisTech et Florence Burga est avec nous également. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous êtes directrice de recherche également à l'INRA et vous êtes auteur d'un livre paru aux éditions du Seuil il y a un peu plus d'un an, intitulé « L'humanité carnivore », qui est une forme d'anthropologie philosophique de notre rapport à l'alimentation carnée. Je tiens à préciser que vous avez aussi préfacé le livre de Gandhi sur le végétarisme, un livre qui a paru chez Rivage en 2018. Juste un mot avant d'entrer dans le vif du sujet avec vous, Florence Burga, sur ce film d'Éric Rohmer, Le Rayon Vert. Il date de 1986, donc il a plus de 30 ans. Le végétarisme était alors regardé comme une bizarrerie. Il y a d'ailleurs encore peu hein, de temps, c'est un mode de vie qui est raillé, c'est un régime alimentaire qui est souvent au but au colibé, voire une forme d'agressivité. Est-ce que c'est en train de changer, voire même est-ce que vous avez constaté un changement entre la parution de votre ouvrage, L'humanité carnivore, et aujourd'hui ?
Aujourd'hui, non, je ne pense pas que mon livre ait pu modifier quoi que ce soit, mais bien sûr, ce régime commence à être très connu parce que, comme vous l'avez dit, on parle du véganisme, c'était un mot absolument inconnu il y a un peu plus d'un an, et il est rare d'ailleurs qu'un terme s'introduise aussi rapidement dans le langage. Donc, tout le monde sait qu'il y a des personnes qui optent pour un régime sans animaux morts. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on peut le dire. On peut dire sans viande, ni poisson, ni produits laitiers, mais c'est quand les gens disent « je ne mange pas d'animaux », on comprend que leur motivation n'est pas nutritionnelle, mais qu'elle est morale.
Peut-être un mot, Daniel Thomé, justement sur la façon de regarder les choses. Si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, la consommation, nous dit l'enquête du Crédoc, de viande a baissé de 12% en 10 ans. Mais de fait, en moyenne, les Français mangent encore beaucoup de viande, plus de 10 fois par semaine. Donc, comment faut-il regarder les choses ? Est-ce qu'on se dit « il y en a de moins en moins » ou finalement l'explosion carnivore est sous nos yeux ?
En ce qui concerne la viande, alors la baisse de la consommation de viande depuis dans les pays occidentaux, c'est quand même une tendance lourde hein, qu'on observe depuis assez longtemps. Alors après, il faut aller voir, il y a des différences suivant les types de viande. Hein. Ce qu'on observe principalement, c'est une baisse de la consommation de viande rouge. Hein, on en consommait beaucoup. Par contre, si on regarde les volailles, un certain nombre d'autres types de viande, c'est beaucoup moins sensible. Si on regarde sur l'évolution dans les pays occidentaux d'une façon générale, on a beaucoup augmenté la consommation de viande au cours du XXe siècle. Dans les périodes antérieures, il y avait des consommations de viande qui étaient beaucoup plus faibles. Avec l'explosion de l'élevage qu'il y a eu, etc., on a augmenté les consommations de viande. Et puis, on voit maintenant à la marge progressivement depuis un certain nombre de décennies.
On l'a quasiment doublé, hein, même 40 kilos par an par personne en 1900, 60 kilos en 1950, aujourd'hui plutôt 90 kilos
voilà,
de viande par an.
Voilà, c'est pour ça que c'est important de dire on a beaucoup augmenté, et puis maintenant il y a une tendance à rebaisser progressivement. Alors comme je disais, qu'il y a une tendance lourde un peu partout, hein, on voit que les consommations de viande, alors pour X raisons, une raison quand même qui est très forte actuellement, c'est les raisons environnementales. Je pense que les gens ont quand même en tête le problème de l'agriculture, bon, on va pas rentrer dans les polémiques de pollution, etc. Mais c'est vrai que c'est vraiment un sujet de débat qui progressivement amène les gens à consommer moins de viande.
Raison environnementale, Florence Burga, le prix également est prohibitif souvent pour la viande. Alors c'est sans doute vrai pour certaines viandes là aussi, plus que pour d'autres. Les scandales à répétition dans les abattoirs, les crises sanitaires, la recherche d'une meilleure santé. Est-ce que vous diriez que c'est la recherche ou le constat d'un pragmatisme ou d'une prise de conscience ?
Alors il me semble qu'il y a évidemment plusieurs types de végétariens, plusieurs raisons pour lesquelles les gens le deviennent. Je pense qu'on peut baisser sa consommation de viande, en effet, comme le disait Daniel, pour des raisons environnementales. Mais je crois qu'une personne qui mange de la viande, du poisson, des laitages, qui, du jour au lendemain, décide de ne plus en manger, ça n'est pas pour des raisons environnementales, c'est vraiment pour des raisons qu'on dirait éthiques.
Éthique.
Voilà. C'est vraiment, je prends conscience du fait qu'en mangeant de la viande, je participe à la mise à mort d'énormément d'animaux. Voilà. Il me semble que la prise de conscience environnementale, probablement, induit plutôt une baisse qu'une mutation radicale du régime.
Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle qu'on mange moins de viande de ce point de vue-là, Florence Burga?
Oui, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que je fais partie des gens qui estiment que si on met en balance le plaisir qu'il y a à manger de la viande et puis ce qu'il en coûte aux animaux, je fais partie des gens qui pensent que nous ne devrions pas manger les animaux aujourd'hui puisque nous savons nous nourrir autrement et que d'un point de vue nutritionnel, nous avons des connaissances qui nous permettent de substituer, d'équilibrer les régimes. Du reste, le régime végétarien a été exploré par l'humanité pendant très longtemps. C'est pas quelque chose de nouveau.
Quels sont les apports de la viande, Daniel Thomé? Je m'adresse au nutritionniste, spécialiste des protéines.
De toute façon, les apports de la viande, en fait, on les connaît bien. C'est en effet, les protéines, on pourra en discuter un peu. C'est vrai que d'une façon générale, les protéines animales et les protéines de viande sont les protéines, on va dire, de très bonne qualité par rapport à des protéines végétales. La viande, ensuite, évidemment, est un facteur qui apporte du calcium, en général. Enfin, les produits animaux, du calcium, du fer. Il y a la vitamine B12, on la trouve que dans les produits animaux. Ça, c'est peut-être même le principal élément chez des gens qui ont vraiment des alimentations très végétales qu'il faut surveiller. Il y a le fer, évidemment, et il y a le zinc.
135 grammes par jour, ce qui est donc le cas aujourd'hui d'après l'enquête du Crédoc, c'est ce qu'il faut pour être en bonne santé?
Globalement, comme on va, par exemple, trouver des protéines dans d'autres aliments, 135 grammes, c'est beaucoup. Alors, d'un point de vue de la physiologie, faut savoir que l'espèce humaine est une espèce avec une très grande adaptabilité nutritionnelle. Donc, 135 grammes par jour, c'est pas un problème d'assimiler cette quantité de viande.
Si j'ai bien lu, grossièrement, pour un homme adulte, on recommande 150 à 200 grammes de viande, poisson ou œuf par jour, et pour une femme, de 100 à 150 grammes, sachant qu'une autre côte peut aller jusqu'à 500 grammes.
Oui, c'est beaucoup Daniel trop Thomas. Par rapport aux besoins. En gros, on va dire que si on regarde les besoins en protéines de l'espèce humaine, ça va tourner à quelques dizaines, 50, 60, 70 grammes par jour pour un adulte, par exemple. Donc ça, on les a dans une centaine de grammes de viande, à peu près. Je veux dire, sachant que la viande, c'est à peu près, suivant le type de viande, à peu près 80 et 90% de protéines en matière sèche. C'est-à-dire, une fois qu'on a enlevé l'eau, en gros, dans la viande, les viandes maigres, par exemple, c'est pratiquement que des protéines.
Est-ce que pour vous, nutritionniste, on peut se passer de toute nourriture animale, de toute alimentation carnée?
Sur le principe et en théorie, absolument. C'est-à-dire qu'on peut trouver à peu près tous les éléments nutritionnels dans des sources très variables. L'homme est très adaptable dans ses régimes alimentaires. On regarde, c'est même son secret pour avoir colonisé un nombre de niches écologiques sur la planète absolument énorme. C'est que dès qu'il arrive quelque part, il va trouver ce qu'il faut pour assurer son alimentation. S'il y a que des éléments végétaux, il va les utiliser, quoi. Je pense que le problème actuellement pour les végétariens, les végétaliens, c'est plus un problème d'environnement. C'est-à-dire que notre environnement alimentaire est fait pour des omnivores. C'est-à-dire quelqu'un qui est omnivore, il n'a pas à se poser de questions quand il fait ses courses. Quelqu'un qui est végétarien, et encore plus végétalien, il faut qu'il passe son temps à regarder ce qu'il va consommer, est-ce qu'il a bien son équilibre alimentaire, etc.
Parce que le végétarien mange encore des œufs et du poisson, ce que ne fait pas le végétalien. Florence Burga.
Oui, je pense que c'est très important ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que on peut s'adapter, il y a des tas de régimes, on sait très bien que les végétariens, les véganes peuvent être en bonne santé, les carnivores aussi. Mais en effet, la personne qui décide de ne plus consommer du tout de produits animaux, elle doit se pencher de près sur la question.
Absolument.
Et en effet, aller dans des magasins spécialisés pour trouver une gamme importante de substituts et se mettre à cuisiner, à refaire des gâteaux, etc., etc. Donc, en effet, on est dans un environnement où ça ne facilite pas les choses.
Est-ce que l'argument du plaisir, du goût, Florence Burga, n'est pas recevable pour vous ? Manger de la bonne viande, c'est bon.
Alors, je pense que, bien évidemment, cet argument est tout à fait recevable. C'est le premier qui vient spontanément à l'esprit. Simplement, je pense que c'est un argument qui reste très superficiel quand on essaie de descendre plus profondément et de réfléchir à nos motivations. Bien évidemment, qu'est-ce qu'il y a derrière ce plaisir ? Voilà. Un élément intéressant, c'est ce qui est en cours de fabrication, la viande de synthèse à partir de cellules animales qui fabriquerait vraiment du muscle animal. Pourquoi est-ce que les gens qui aiment la viande ne voudraient pas de cette viande ?
Peut-être adaptabilité de l'humain, disait Daniel Thomé, on y viendra peut-être.
Oui, alors moi je pense qu'on y viendra, mais on peut se dire dans cette réticence, il y a peut-être le désir obscur, un peu obscur, de vouloir manger un animal.
C'est voilà. La question que vous posez dans votre ouvrage, l'humanité carnivore, c'est comment et pourquoi sommes-nous carnivores ? Est-ce que c'est une question de nature ? Est-ce que c'est une question de culture ? Ce que vous écrivez, Florence Burga, c'est qu'en tous les cas, l'alimentation carnée n'a pas toujours été une institution et une norme. Avant, ça répond, enfin, il y a très très longtemps, ça répondait à une nécessité. Peut-être que cette nécessité n'est plus à l'ordre du jour.
Oui, cette nécessité, bien sûr, n'est plus à l'ordre du jour. C'est vrai que l'alimentation, c'est une histoire. Et qu'on ne peut pas penser l'alimentation de société industrielle aujourd'hui, avec notre mode de vie, avec l'alimentation dont pouvaient avoir besoin des individus qui vivaient dans le froid, qui n'avaient pas de culture, etc. Donc, on doit toujours la regarder à l'aune des conditions géographiques, en particulier. Et aujourd'hui, on peut rebattre évidemment les cartes, du fait aussi que nous sommes très très nombreux, que nous allons être de plus en plus, et que probablement il va falloir inventer des solutions.
À nouveau s'adapter. Daniel Thomé.
Oui, je pense que quand par exemple des consommateurs vont déclarer qu'un aliment est bon, c'est compliqué ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on sait que les déterminants du comportement alimentaire, ils sont multiples, ils vont de facteurs purement biologiques jusqu'à des facteurs psycho-affectifs, culturels, cognitifs, philosophiques, moraux. Alors, pourquoi spontanément on va chercher de la viande ? Nous, on a fait des expérimentations justement de comportement, jusqu'à des analyses justement sur les zones du cerveau qui répondent à la consommation des aliments. Et si par exemple, on prend des individus qu'on carence légèrement pendant un petit moment en protéines, c'est-à-dire on les met à un régime un petit peu déficient en protéines, spontanément, ils vont aller chercher des protéines. Et si on regarde le moment où ils vont consommer, par exemple, un aliment riche en protéines, comme de la viande, si on regarde dans leur cerveau les zones de récompense, les zones de plaisir, elles sont hyper activées par cet aliment riche en protéines. Si on prend un individu qu'on n'a pas carencé, il se passe rien du tout. On peut le reproduire chez le rat, on peut le reproduire chez le porc, etc. Alors, c'est pas la viande. Moi, ce que je pense que cette attraction pour la viande, c'est fait que comme c'est l'aliment le plus riche en protéines qu'on a dans notre environnement naturel. On a toujours expérimenté un moment où on a eu un besoin de protéines et en consommant de la viande, c'est inconscient, mais notre organisme a identifié cet aliment comme étant l'aliment qui règle ce problème de déficit qu'on a ressenti inconsciemment.
Et puis de fait, on nous l'a appris, donc on nous l'a transmis.
Exactement.
Également.
C'est pas du tout inné, c'est de l'apprentissage et du conditionnement. Et donc, un individu qui n'a pas d'opposition morale, philosophique à la consommation d'un aliment quelconque, une fois qu'il l'a expérimenté et que son organisme a enregistré que cet aliment correspondait à un besoin, évidemment, il va le rentrer dans son registre alimentaire et il va le rechercher et en fait, il va l'aimer, quoi. Alors, ce qu'il faudrait qu'on trouve, c'est en effet, je suis assez d'accord avec ce problème des nouveaux aliments, il faut trouver des aliments de substitution.
Et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cette émission. On vous retrouve d'ici quelques minutes.
Tu veux du saucisson à l'ail ?
Oh non.
Bah moi je vais en prendre. L'admirable cholestérol qu'on va se payer.
Vous écoutez les bonnes choses sur France Culture, c'est l'heure de la Madeleine de... Natacha Triou.
La Madeleine de Johann Svar. L'auteur de bande dessinée vient de publier un nouvel album, Du chat du rabbin, un 8e volume qui s'appelle Petit panier aux amandes, un titre plutôt gourmand. À 47 ans, il est l'auteur de plus d'une centaine de livres. Alors voici le grand souvenir gustatif de ce dessinateur compulsif.
Vous ne serez pas surpris, ma Madeleine, c'est un couscous. Mais c'est un couscous qui n'est pas très connu. Ça s'appelle le couscous au beurre, et c'est un couscous qu'on fait dans les familles juives à la fin des Pâques juives, à la fin de Pessah, et ma grand-mère faisait ça. Donc c'est un couscous sucré, avec du lait caillé, de l'eau de fleur d'oranger, des grenades, des fèves qui sont très très longues à éplucher. Quand j'étais petit, j'assistais à l'épluchage des fèves qui possèdent deux peaux. Donc ma grand-mère y passait des journées entières pour avoir juste une poignée de fèves. Et c'est extraordinairement bon. Je ne vais pas dire c'est léger, mais on a l'impression que c'est léger quand on le mange. Après, on est gros comme la stratosphère. Le couscous au beurre, c'est un régal. C'est un truc, c'est mieux que tout. Pour moi, c'est le Proust l'aurait lu, il n'aurait pas écrit les mêmes choses. Ma grand-mère avait un petit appartement sur les hauteurs de Nice, à Signé. C'est un appartement de vieille dame, mais dans lequel elle avait un immense miroir, un vieux piano Choiseul et des services à thé. Machin. Donc elle mettait son argenterie, elle mettait une belle nappe, elle préparait ce couscous au beurre. Et il y avait toutes sortes d'autres choses. Elle faisait également ce qui s'appelle des knidlets. Ça a été le titre du 8e album du Chat du Rabbin. Knidlets, c'était des petits paniers aux amandes. Donc c'est des pâtisseries orientales, mais elle, pour faire chic, elle disait que c'était espagnol. Alors évidemment, chacun pense qu'il a eu la grand-mère juive qui faisait le mieux à manger, mais il se trompe puisque c'était la mienne en fait. Ça a toujours été très tenu chez ma grand-mère. D'abord parce qu'elle était très chic. Comme elle était née à Sidi Bel Abbès et qu'elle parlait couramment l'arabe, elle faisait comme si elle était née dans le 16e arrondissement, donc elle s'inventait un truc. Et mon père a toujours eu un immense respect pour sa maman, donc quand il arrivait, c'était assez chic. C'était dans l'idée qu'on avait du chic. Elle régnait vraiment, ma grand-mère. Donc ce qui peut faire penser à ça, ce sont les films du parrain. Quand tout le monde la ferme, quand le parrain arrive, ma grand-mère, c'était un peu Marlon Brando de la famille. C'est-à-dire qu'elle pouvait excommunier quelqu'un d'une phrase, elle pouvait gâcher une vie en deux mots, et elle pouvait également donner ses recettes de cuisine à ses filles et ses brus, ce qu'elle ne faisait pas. Elle donnait la recette et elle oubliait un machin pour que ce soit toujours meilleur chez elle. Elle avait des carnets, ma grand-mère, où elle écrivait toutes ses recettes. Et quand tu lui demandais comment tu fais ça, elle disait toujours c'est très simple et elle commençait un mensonge. Et il ne se passe pas 10 jours sans que je crie faites-moi un couscous au beurre. Et personne ne me le fait jamais parce que ça a l'air compliqué. Mais bientôt, je crois qu'on va m'en faire un. Voilà, le but de ma vie, c'est de manger un bon couscous au beurre.
Vous écoutez les bonnes choses sur France Culture. Et nos deux invités aujourd'hui, Daniel Thomé, qui est nutritionniste spécialisé des protéines et professeur à AgroParisTech, et Florence Burga, qui est philosophe et qui est l'auteur de L'humanité carnivore. Tiens, est-ce que vous pensez tous les deux que nous allons vers un rejet total de la viande? On n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Si je regarde les chiffres, en France, c'est donc 3% de la population qui se tourne vers un régime sans viande. Seulement 1% de la population consomme de la viande moins d'une fois par semaine. Et si on en croit les récentes enquête, les 18-25 ans sont les plus carnivores. Si on en croit aussi la récente enquête de Terra Nova, le think tank qui a fait paraître une étude il y a un an sur l'avenir de la viande, la production devrait augmenter de 75% d'ici 2050 pour satisfaire l'appétit des 9 milliards d'êtres humains. Alors, vous nous parliez, Florence Burga, de ces viandes végétales, de ces viandes de synthèse. Est-ce vraiment l'avenir ?
Alors, il y a deux sortes de choses. Il y a les viandes végétales. On essaie de faire des imitations à partir du seitan, du tofu et de certains champignons. Et puis il y a, alors à l'état encore balbutiant, la production en laboratoire de viande à partir de muscles. On fait pousser des cellules et donc ce serait ce qu'on appelle la viande cultivée. Enfin, du reste,
c'est de la culture de tissu.
La culture de tissu, voilà. Et pour le moment, on sait faire un petit steak haché, mais enfin voilà, les recherches sont balbutiantes. On peut penser que l'avenir, c'est plutôt les simili carnés végétaux. J'ai goûté récemment, c'est pas de la viande, mais c'est un produit laitier, des camemberts qui sont faits avec de la noix de cajou. Donc c'est des produits très simples, hein, pas du tout avec de la chimie extravagante, de la noix de cajou et des ferments. Et j'ai été absolument éberluée parce que c'est...
Oui, là, ça a l'odeur du camembert, du goût, ça a le goût du camembert, mais ça n'est pas du camembert.
Non, parce que c'est pas fait avec du lait, c'est fait avec de la noix de cajou et c'est absolument bluffant. On en est au tout début, donc je pense qu'il y a des gens qui se sont des toutes petites productions artisanales en France, hein, des gens qui se passionnent pour ça. Et du reste, peut-être qu'on peut signaler que au Xe siècle en Chine, sous l'impulsion d'une branche de bouddhistes strictement végétariens, une cuisine végétale en fait s'est développée, s'est autonomisée avec des substituts. Et donc cette idée et cette réalité est ancienne.
Daniel Thomé. Je pense que c'est une des principales questions. Alors je ne sais pas si on va vers des sociétés complètement végétaliennes. Si ça se fait, c'est pas tout de suite. Il y a une tendance. De toute façon, compte tenu d'augmentation de la population, on sera 9 milliards dans les années 50. Si tout se passe comme ça évolue en ce moment, on sait qu'on n'aura pas assez de protéines pour nourrir tout le monde. Et on sait aussi qu'on peut pas augmenter l'élevage, même si on le diminue pas. Mais de toute façon, on va pas pouvoir augmenter. Donc, il va falloir trouver des sources de protéines de substitution. Ça va être beaucoup végétal. Ça peut être des cultures. Ça peut être des algues. Ça peut être, enfin bon, on discute des insectes, etc. Il y a tout un tas de solutions, mais toutes ces solutions, la plupart du temps, on va se retrouver avec des matières premières, il va falloir en faire quelque chose, quoi. C'est-à-dire, on va pas manger des poudres, on va pas croquer des insectes comme ça, etc. On va pas
ça
manger.
Ça s'apprend, tout ça. Voilà. Hein? Donc, même devenir végétarien, même voilà. Devenir végane, ça s'apprend.
Il va falloir réinventer des aliments. Alors là, on peut pas se projeter obligatoirement tout de suite quels seront les aliments. Mais là, il y a sûrement, y compris des cuisiniers, qui vont trouver des idées. D'ailleurs, il y a eu quelques essais. Hein. On prend des grands chefs, par exemple. On prend, par exemple, des poudres qui sont des protéines extraites de végétaux. Ça s'est déjà fait. On leur dit, écoutez, voilà. Un ingrédient alimentaire, essayez de nous inventer des aliments qui utilisent cet ingrédient.
Donc faisons confiance aux cuisiniers pour innover en matière de cuisine.
Oui, parce qu'il faut oublier
pour la cuisine du futur et pour savoir comment nous nous nourrirons en 2050.
L'alimentation, c'est un plaisir. Le moteur absolument. De l'alimentation,
je suis contente de vous l'entendre dire.
C'est un plaisir. Non, mais c'est un plaisir physiologiquement.
Ça doit le rester.
J'aurais pu le dire aussi.
Florence, prenez-vous toujours plaisir à manger comme vous le faites, vous qui êtes devenue végane depuis deux ans et qui étiez végétarienne depuis 30 ans.
Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien cuisiner. Je vais au marché deux fois par semaine. Je travaille à la maison, donc j'ai la chance de pouvoir me faire les repas et sans passer mon temps à cuisiner. Ça m'amuse de voir qu'on peut faire des gâteaux sans œufs, que le jus de pois chiche est un équivalent du blanc en neige, etc. etc. Donc voilà, on s'amuse.
Vous aussi, vous faites preuve de créativité et d'innovation dans votre cuisine. Merci beaucoup à tous les deux, Florence Burga et Daniel Thomé, pour cette présentation des choses et de l'avenir, hein, d'une certaine façon, du présent et de l'avenir. On va terminer cette émission, ce plat du jour en musique, et j'en profite puisque nous parlions de la viande, pour diffuser un extrait de la chanson qui nous sert de générique. Figurez-vous que Poulet 728120 par Vincent Delerme et Philippe Catherine nous a soufflé notre générique. Voilà ce qu'elle dit, cette chanson.
Poulet. Poulet numéro 728120. Poulet de Vendée, élevé en plein air, 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimentés avec 75% de céréales. Le 3 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent, en Vendée, électrocuté, vidé, déplumé, conditionné, lavé, labellisé le poulet. Le 8 décembre 1998, je l'ai acheté 52 francs 55 chez le boucher chauve, rue de la Bastille, à Nantes. Je l'ai mangé chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré, le poulet.
Voilà cette chanson de Philippe Catherine et Vincent Delerme, Poulet 728120, et on peut quand même penser qu'il y a une troisième voie entre être carnivore et végétarien ou vegan, en pensant à tous ces flexitariens qui mangent moins de viande ces derniers temps mais qui là mangent mieux, en pensant aussi à tous ces éleveurs qui sont soucieux du bien-être de leurs bêtes et de leur alimentation. Tout de suite, c'est la cerise sur le gâteau, Pierre et Bernard. C'est l'heure donc de la cerise sur le gâteau, présentée et proposée chaque semaine par Pierre Hiverna, directeur du site Alimentation Générale. Alors que le président Macron a annoncé les mesures qu'il compte mettre en œuvre dans le plan pauvreté, vous posez ce matin la question « Manger coûte-t-il trop cher ?»
En effet, Caroline, alors même que pendant les 30 glorieuses, poussées à 50 s'agissant de l'agroalimentaire, on nous a promis monts et merveilles en termes de sécurité alimentaire et d'accès à tout par tous, il semble que le bio ou le concept de manger sain et durable en circuit court échappe à certains. Des ingrats qui ne reconnaissent pas les efforts faits par les producteurs et l'industrie? Non, plus simplement des pauvres qui sont à la fois le produit et la source d'un système qui se mord la queue. Je m'explique. Commençons par nous balader dans les rayons d'une grande surface dans laquelle, faut-il le rappeler, plus de 70% des Français continuent à faire leur achat alimentaire. On y voit encore et toujours toutes les astuces de communication les plus basiques pour faire comprendre aux clients que moins cher, que moins cher, que chez le voisin déjà moins cher, t'as de la chance, c'est ici. On finirait par penser que la grande distribution ne travaille qu'à notre bonheur économique si l'on ne se doutait pas que les ingénieurs en marketing avaient compris depuis longtemps qu'un pauvre plus un pauvre plus un pauvre, ça constitue un marché. Vraiment ? Malheureusement, quelques chiffres parlent d'eux-mêmes. Les Restos du Cœur, par exemple, créés par Coluche en 1985, célébraient en 2014 le triste record du passage aux millions de bénéficiaires. Mais malheureusement, au cours de leur campagne 2016-2017, ils ont distribué des repas à près de 1,3 million de personnes, soit 30% d'augmentation en 3 ans. Et dans son 12e baromètre annuel Ipsos sur la perception de la pauvreté, le Secours Populaire a révélé qu'un peu plus d'un cinquième des Français avaient du mal à se nourrir quotidiennement. Les foyers les plus modestes, dont de nombreuses mères seules, étant évidemment les plus touchés. Ainsi, près d'un Français sur deux, dont les revenus mensuels sont inférieurs à 1200 euros, estime ne pas être en mesure de s'offrir une alimentation variée et de faire 3 repas par jour. Quant à la proposition du plan pauvreté garantissant un petit déjeuner à chaque écolier, elle sonne comme un cruel aveu d'échec du plan précédent, le plan pauvreté du président Hollande et du Premier ministre Valls. Les Français ont donc fait fondre la part de l'alimentation qui dépassait les 30% de leur budget dans les années 60 pour arriver à moins de 15 aujourd'hui. Et le cercle vicieux s'est mis en marche sans que l'on sache aujourd'hui très bien comment l'arrêter. Car une nourriture qui ne vaut pas grand-chose a fini par faire croire aux consommateurs qu'elle n'avait pas de valeur. Pour produire un steak à guère plus d'un euro ou un poulet à 5 euros, les industriels ont dû tout compresser, y compris de la viande de cheval dans des lasagnes, enlevant au passage le goût des choses et le remplaçant par un goût préfabriqué conçu pour éduquer le mangeur à leurs besoins commerciaux. Ils ont alors dû également réduire les marges des agriculteurs, eux-mêmes obligés de produire toujours plus et moins cher pour compenser leur baisse de revenus. Ainsi va ce cycle stupide et indigne de la 7e puissance économique mondiale qui, in fine, amène les plus pauvres d'entre les Français, dont le nombre, rappelons-le, est évalué par l'INSEE entre 8 et 10 millions, à considérer la mauvaise nourriture pas chère, non plus comme une nécessité, mais comme une variable d'ajustement.
Merci Pierre Hiverna, et c'est évidemment un sujet sur lequel nous reviendrons très prochainement dans Les Bonnes Choses. Les bonnes choses se poursuivent en réécouté, en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Aïgoui Chichkoyan, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Anthony Thomasson, vous souhaite une excellente journée à l'écoute de France Culture et dans un instant, ce sera le journal.